Bien, bah écoutez, il est 16 heures au moins à cette horloge. Donc nous renouons avec l'exploration qui est au cœur de ce séminaire, c'est-à-dire la question comment lire un texte, qui nous amène directement à évoquer un certain nombre de perspectives critiques ou d'approches méthodologiques qui peuvent proposer des instruments de lecture. Et vous vous souvenez peut-être que j'avais conclu l'exposé la fois dernière, avant une longue discussion sur la ponctuation, avec la remarque selon laquelle cette nouvelle configuration de l'ordre du discours au milieu du XVIIIe siècle, qui liait singularité de l'écriture, originalité de l'œuvre et propriété intellectuelle, avait eu pour conséquence, une des conséquences, le fait de poser différemment la relation entre l'expérience de vie de l'auteur et le déploiement de la création littéraire, ce qui avait amené à cette observation sur le fait qu'à partir de ce moment-là, pour que les deux soient liés plus étroitement, on pouvait rechercher à publier, à éditer les œuvres dans l'ordre de leur écriture, et d'autre part, qu'on les mettait en rapport avec différentes expériences, émotions, souffrances de l'auteur. Et ce paradigme-là était mis en place autour de la fin du XVIIIe. J'avais pris comme exemple les approches critiques de Edmond Malone à propos de Shakespeare, sa biographie et la chronologie de ses œuvres. Et aujourd'hui, nous allons retrouver pour une des premières perspectives critiques que j'aimerais examiner, à la fois cette question de la biographie et la question de Shakespeare. Puisque j'ai pensé qu'on pouvait commencer cette exploration avec une série de trois types d'approches critiques qui s'étaient toutes qualifiées de « new », le « new historicism », qui est une critique par rapport à une approche qui s'identifiait comme le New Criticism, et je laisserai pour plus tard la question de the New Bibliography. Alors, pourquoi le lien entre ces deux exposés? Parce que nous pouvons entrer dans l'examen des catégories du New Historicism à partir d'une biographie, qui était celle de Shakespeare, due à Stephen Greenblatt, dont j'ai écrit le nom sur le tableau. C'est une biographie qui a été publiée en 1983, si je ne m'abuse, pardon, 2004, en 2004, et qui nous permet d'entrer dans cette approche. C'est un énorme événement lorsqu'elle a été publiée, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, une série importante de critiques, sans doute une ironie un peu envieuse dans le milieu des Shakespeariens. L'intérêt de revenir à cette biographie de Shakespeare, qui est construite sur ce paradigme que j'évoquais, la relation intime entre l'œuvre et la vie, c'est qu'elle est due aux critiques littéraires, à l'historien de la littérature qui a défini les contours de l'approche du New Historicism, c'est-à-dire Stephen Greenblatt. Et donc, ça nous permet peut-être de lier dans cette réflexion, d'un côté, l'élucidation d'une pratique d'analyse textuelle qui a un grand impact, au moins dans le monde de langue anglaise, aux États-Unis et en Angleterre, le New Historicism, défini parfois comme une poétique de la culture, Poetics of Culture, et d'autre part, ce qui pourrait paraître assez contradictoire avec cette approche, c'est-à-dire de faire retour sur le genre de la biographie littéraire dans le cas d'une vie de Shakespeare qui pose des problèmes extrêmement aigus et à la limite de la biographie puisque dans ce cas-là, il n'y a aucun document de nature biographique ou autobiographique qui soit disponible, correspondances, mémoires, journaux, manuscrits, des œuvres, récits de vie, etc. Alors, c'est ce croisement un peu paradoxal qui peut être le point d'entrée de la réflexion. Mais d'abord, il faut faire retour sur cette expression « new historicism », nouvel historicisme, qui apparaît pour la première fois en 1982 sous la plume de Greenblatt et qui définit non pas une théorie ou une doctrine, mais surtout une manière d'approcher les textes littéraires du passé, essentiellement pour lui le monde élisabétain et plus particulièrement le théâtre et plus particulièrement Shakespeare, mais qui a eu aussi une appropriation par des historiens de la littérature anglaise du XVIIIe siècle. Il n'y a pas là la volonté de bâtir une théorie, mais beaucoup plus de proposer une approche d'analyse, un peu en parallèle avec ce que Derrida a souvent dit de la déconstruction, qui n'est pas une théorie en elle-même, mais qui est une manière de considérer, d'analyser, de critiquer les textes. Le texte fondamental qui donne les principes de cette démarche analytique, il se rencontre dans le livre de Greenblatt, « Shakespearean Negotiations », qui est un livre qui, lui, a été publié en 1988 à l'Université de Californie et dont le préambule, qui a pour titre la circulation de l'énergie sociale, The Circulation of Social Energy, donne des principes d'analyse du New Historicism. Il est très dommage que ce livre n'ait jamais été traduit en français. Le mot-clé se trouverait à la fois dans le titre, négociation, Shakespearean negotiations, et on va le voir, il se trouverait aussi dans le titre de ce premier chapitre, Circulation of Social Energy, la circulation de l'énergie sociale. Alors d'abord, négociation, ou bien souvent employé comme synonyme dans cette perspective, le mot de transactions. Entre quoi et quoi ? Entre la création esthétique, la fabrique de l'œuvre, la production du texte, dans ce cas-là de théâtre, et d'autre part, les discours ou les pratiques du monde social. Et à partir de cette perspective, selon laquelle une œuvre de fiction se bâtit nécessairement sur une appropriation esthétique, donc un déplacement esthétique de fragments de discours, d'éléments de pratique, de rituels, de réalité du quotidien d'un monde social, on voit qu'on a deux conséquences. La première, c'est de considérer que la création esthétique est essentiellement le déplacement d'objets, de rites, d'histoires, de pratiques, de croyances, d'un espace social, qui peut être celui du religieux, du politique, du quotidien, à un autre espace social qui est celui de la création littéraire, ou disons esthétique, pour éviter ces ambiguïtés de ce terme de littérature avec lesquelles j'ai commencé ce séminaire. Donc on a comme une démarcation entre différents espaces, différentes zones, si on était dans une sociologie à la Bourdieu, on dirait différents champs, et la possibilité de franchissement de ces frontières, d'ailleurs mobiles, entre ces différents champs, et la négociation qui produit l'œuvre esthétique est celle qui va placer dans la sphère ou la zone de la fiction des éléments qui appartiennent à d'autres sphères ou d'autres zones du monde social. Je peux citer, en traduisant comme ça, que ces échanges sont faits en transportant certaines choses, principalement le langage ordinaire, mais aussi des métaphores, des cérémonies, des emblèmes, des vêtements, des histoires bien connues, ainsi de suite, d'une « culturally demarcated zone », d'une zone démarquée de la culture à une autre. Et c'est ce processus de mouvement entre des zones dont les boundaries, les frontières sont elles-mêmes mobiles et fluides, qui va définir le processus central, c'est-à-dire le processus de la négociation ou de la transaction. La seconde conséquence, c'est de penser les œuvres d'art toujours comme des productions collectives. en ce sens que, même si elles sont individualisées dans une création par un auteur, William Shakespeare, cet auteur est constamment en recyclant, réemployant, déplaçant des éléments qui appartiennent collectivement au monde social ou à différentes zones de ce monde social dans lequel il produit des fictions. Donc voilà le premier concept clé, le concept de négociation et d'appropriation, et ce qui amène dans cette perspective à porter l'attention, plus précisément que dans la citation que je viens de faire, sur ce qui peut être l'objet de ces négociations, ce qui peut être l'objet de l'appropriation esthétique d'éléments du monde social. Et dans cette introduction, Greenblatt définissait une sorte de typologie ou de classification de ce qui pouvait être à la fois des modalités d'appropriation et des réalités appropriées, commençant par un emploi plus strict que celui que le mien du mot « appropriation », c'est-à-dire la présence immédiate et le transfert gratuit d'une sphère à une autre, et c'est le cas pour les différents langages. L'œuvre de fiction s'écrit dans une relation avec des langages qui sont ceux de son temps, même si c'est pour les parodier, les amplifier, les dénier. Il y a là une première forme qui est celui de l'appropriation des langages transformés à des fins esthétiques. Il y a d'autre part ce qui relèverait de la transaction de l'achat, et qui, particulièrement dans le cas du théâtre, évidemment, met sur la scène des objets qui sont ceux du monde social, les accessoires qui sont des objets matériels de l'expérience du quotidien, les costumes, et on sait la circularité, je l'avais rappelé dans le cours, des vêtements dans le monde élisabétain, puisque très souvent les serviteurs reçoivent en legs des vêtements qui étaient ceux de leur maître, et que ces mêmes serviteurs, puisqu'il est difficile de porter des vêtements qui ne soient pas adéquats à sa condition sociale dans une société rigidement construite, vont les vendre à des revendeurs, et ces revendeurs les vendent à leur tour souvent à des troupes de théâtre, ce qui fait que les costumes ne sont pas peut-être comme les costumes contemporains faits pour la représentation, mais très souvent des vêtements aristocratiques réemployés dans ce circuit des vêtements. Ou bien encore la présence sur la scène de livres qui sont eux-mêmes aussi des objets acquis par transactions financières. Et puis, à côté de cette appropriation immédiate et gratuite des langages, de ces achats d'objets, il y a toutes les formes d'acquisition symbolique qui transforment ou transportent sur la scène à la fois des simulations de cérémonies ou de rituels qui appartiennent au monde social. Dans ce cas-là, il s'agit d'une simulation de pratiques réelles mises sur le théâtre. On trouvait de nombreux exemples dans les histories de Shakespeare, des cortèges, des processions. On a ce que Greenblatt décrit comme des homologies métaphoriques. C'est à travers une métaphore qui est littéraire, esthétique, qui est désignée une réalité du monde social, ou encore ce qui serait du registre de la métonymie, lorsqu'un élément peut valoir pour le tout, et on le verrait en particulier pour ce qui est interdit de représenter sur la scène et qui peut être évoqué à partir d'un élément, par exemple les scènes sexuelles. Donc il y a là une série de transactions, de négociations, d'appropriations, d'achats, d'acquisitions symboliques qui créent cette dynamique du processus de création. Et c'est dans ce cadre-là qu'est importante la notion de « energy », de « social energy ». Et pour deux raisons. Parce qu'en s'appropriant par achat, par acquisition symbolique ou par appropriation immédiate des réalités du monde social, l'œuvre se trouve comme investie par l'énergie sociale qui peut être présente dans ces expériences, ces discours et ces pratiques, les anxiétés, les désirs, les intérêts du monde social. Mais ce processus est réciproque, puisque les œuvres sont faites pour être lues ou pour être vues. Et à partir de cette donnée, les plus puissantes d'entre elles peuvent reverser sur le monde social cette énergie, mais une énergie qui a été transformée par la création esthétique. Et du coup, le fait que des systèmes de représentation du passé, du monde, du pouvoir, des autres, se trouvent modelés, façonnés dans la réception collective de l'œuvre par l'énergie captée et retraduite dans la création esthétique. C'est pourquoi, dans la perspective néo-historiciste, vous avez cette idée d'une circulation sociale, capture d'énergie, transformation de cette énergie, reversement de l'énergie pour définir, to shape, pour façonner des expériences, des croyances, des représentations. Et donc, on a affaire à des échanges dynamiques dans cette circularité, avec toujours un retour sur le monde social qui est la condition de possibilité de la création, mais qui se trouve à son tour transformé, refaçonné, modifié par cette création. Un exemple qu'on pourrait donner, c'est que je l'avais fait avec les histories de Shakespeare, les pièces historiques qui vont définir, qui évidemment s'emparent de réalités passées du monde social telles qu'elles sont transmises par les chroniques ou telles qu'elles sont encore transmises par les rituels et les cérémonies de la monarchie ou des pouvoirs, mais qui les retransforme à travers un processus de création esthétique qui peut bousculer les chronologies, qui peut transformer les personnages, qui peut créer cette sorte de caractéristique entre une représentation et en même temps un affaiblissement du charisme, du pouvoir, et donc du coup qui façonne une représentation du passé de l'histoire anglaise plus puissante pour les spectateurs des pièces historiques que ne l'est évidemment les représentations dont les dramaturges se sont emparés, qui sont celles des chroniques du temps. On a cette perspective-là. Alors cette perspective a toute une série de fondements et de conséquences. Le premier fondement, c'est ce contre quoi elle est construite. À la fois une forme traditionnelle d'une analyse sociale ou marxiste qui détectait dans les œuvres fondamentalement des idéologies et qui pouvait mettre en rapport un contenu esthétique avec une idéologie, un livre qui pourrait incarner cette perspective, c'est le livre de Lucien Goldman, « Le Dieu caché », dans lequel le jansénisme, tel qu'il est exprimé par les dernières tragédies de Racine ou par Pascal, est considéré comme l'expression esthétique de l'idéologie de la noblesse de robe dépouillée de ses pouvoirs ou prérogatives ou puissances par la construction de la monarchie absolue. Donc une mise en rapport assez directe entre un contenu esthétique, une idéologie et un milieu social dont certains auteurs se font, même si ce n'est pas leur intention consciente, les expressions ou les porte-paroles. L'autre critique, sûrement plus présente dans l'esprit de Greenblatt, parce qu'elle était plus particulière au monde de la critique littéraire américaine depuis les années 30 et surtout l'après-guerre, c'est ce courant que l'on appelait, ou qu'on appelle toujours, New Criticism, et dont il ne faudrait surtout pas penser qu'il était une traduction de l'approche définie en France comme nouvelle critique, sur laquelle je reviendrai, celle de Barthes, par exemple. Ce New Criticism a ses raisons propres. Dans le monde américain, il apparaît dans les années 1930, surtout que dans des œuvres de poètes qui sont en même temps critiques littéraires et qui contre une forme assez immédiate de réduction des œuvres à leur contenu idéologique ou à leur capacité de communiquer des idées ou même à leur volonté de produire des réponses affectives, oppose une approche formaliste qui considère l'autonomie radicale de l'œuvre poétique, c'est-à-dire ici une absolue décision sur la poétique comme étant le fondement même de l'œuvre, dont il ne faut chercher ni le contenu idéologique, ni la force de communication intellectuelle, ni même une dimension de production de sentiments. C'est une l'œuvre fonctionnant en elle-même, par elle-même, dans un modèle où il y a un refus de tout ce qui serait ce qu'ils appelaient la « doctrine of relevance ». L'œuvre n'est relevant pour rien, sauf pour elle-même, dans son radicale autonomie. Et dans les années 40 et 50, cette approche, qui avait été surtout développée par des poètes critiques du Sud américain, va se trouver installée dans le monde universitaire, dans la critique universitaire, et en particulier par les trois noms, les trois auteurs que j'ai mentionnés ici, Clarence Brooks, Wimsatt et Beardsley. Et les conséquences pour la critique littéraire de ce postulat de la radicale autonomie de l'œuvre esthétique, en particulier poétique, seraient les suivants: le développement d'une technique d'analyse qui est fondée sur un close reading, la lecture attentive, méticuleuse, minutieuse, qui toujours porte l'attention sur les formes textuelles, les métaphores, les relations entre les images et les mots, les contrastes ou les contradictions qui peuvent se trouver dans le texte. Donc, cette technique développée comme celle d'une lecture proche, d'une lecture intensive, d'une lecture attentive, et non pas celle qui déchiffrerait ou qui déchiffrait de manière plus générale dans un texte un contenu idéologique ou une capacité à produire du sentiment. Une deuxième conséquence de cette approche, c'est évidemment que l'idée que l'on ne peut pas rendre en prose un poème. C'est donc une sorte de refus de la paraphrase, qui est très souvent un élément de la critique littéraire. Dire autrement ce que le texte dit déjà. Et donc, l'approche critique formaliste s'attache évidemment à démonter les métaphores, les procédés rhétoriques, les tensions internes au texte, mais avec cette idée que l'on ne peut pas séparer le contenu de la forme et qu'à partir de ce moment-là, la structure de sens ne peut pas être approchée en séparant la forme et le contexte, la signification et la poétique. Et c'est pourquoi l'image de l'irréductibilité du poème à toute paraphrase en prose est fondamentale. Et le troisième trait, dont vous pouvez imaginer les suites dans d'autres formes critiques, c'est le refus de concept même d'intention d'auteur, d'autorial intention. Et un article fameux, qui est celui de Wimsatt et Beardsley, dans une revue en 1946 qui s'appelle la Sewanee Review, c'est une revue du Sud, toujours citée, et qui dénonce ce qu'ils appellent the intentional fallacy, la faute de l'intentionnalité, le fait que ramener un texte à l'intention de son auteur est nier l'autonomie du processus de production du sens de l'œuvre et que de ce fait, l'intention de l'auteur n'est ni atteignable ou ni même désirable dans sa reconstruction pour comprendre l'œuvre. Une citation de cet article, « Le poème est détaché de son auteur à sa naissance et il traverse le monde au-delà de tout pouvoir de son auteur de le contrôler ou d'en contrôler ou d'en orienter la signification. » C'est un des points évidemment clés, cette idée de la récusation de l'explication des textes par le ramener à l'intention de l'auteur. Et on voit dans cette perspective critique aussi un déplacement à partir d'un certain moment de l'analyse poétique, qui est évidemment paroxystique pour cette approche. Le poème détaché de l'auteur, le poème impossible à paraphraser en prose, le poème qui, plus que tout autre texte, suppose une close reading, une analyse méticuleuse des images, des métaphores, des figures, vers les romans en prose. On pourrait faire deux remarques sur cette approche du New Criticism, c'est-à-dire le fait qu'il a pu avoir des suites, par exemple, dans la perspective critique de Tom Fry, qui hérite de cette forme pour la déplacer, lui, vers l'idée du myth criticism, une critique qui, tout en étant centrée sur le refus de l'invention de l'auteur, de l'intention de l'auteur, sur l'autonomie de la littérature, sur le peu de pertinence du contexte historique, de la circonstance, déplace l'attention sur les archétypes mythiques qui sont présents dans chaque texte littéraire et qui sont les conditions de possibilité de cette production, que l'auteur en soit conscient ou le plus souvent inconscient. À partir de ce moment-là, on a comme un lien entre une approche formaliste et une approche ahistorique dans la perspective de Norton Fry, dans un livre, par exemple, de 1957, « Anatomy of Criticism ». La deuxième remarque, c'est la parenté qui peut exister entre ce New Criticism et la nouvelle critique telle qu'elle apparaît en France dans la fin des années 60 et tout particulièrement dans l'œuvre de Roland Barthes. Et dont le point de départ, vous l'avez sans doute entendu, est lui aussi lié à cette idée de le manque de toute pertinence de l'intention de l'auteur. Et un des essais les plus fameux de Barthes, c'est évidemment, on va peut-être jeter un œil plus précis, celui qui a pour titre « La mort de l'auteur », parce que c'est une rupture avec toute idée de pertinence donnée à la biographie de l'auteur. Et un héritage du New Criticism américain. Il y a dans ce texte et dans cette perspective deux idées fondamentales. La première, c'est la séparation radicale entre le sens ou l'essence du texte et l'intention de l'auteur. Je cite, « En France, Mallarmé, sans doute le premier, a vu et prévu dans toute son ampleur la nécessité de substituer le langage lui-même à celui qui jusque-là était censé en être le propriétaire. Pour lui, comme pour nous, c'est le langage qui parle, ce n'est pas l'auteur. » Et donc, cette première approche qui fait considérer le texte écrit de la même manière que dans la linguistique, les actes de langage, les speech acts, la forme verbale performative. Dans un sens, il n'y a pas d'antériorité du locuteur à son énoncé. Et là, il n'y aurait pas d'antériorité du sens du texte à sa production. Donc, l'intention de l'auteur est disqualifiée à partir de cette perspective. C'est là la première raison pour cette définition finalement, de ce détachement de la signification, de l'intention. Je cite encore, toujours dans le texte « La mort de l'auteur », « L'auteur, lorsque l'on y croit, est toujours conçu comme le passé de son propre livre. Le livre et l'auteur se placent d'eux-mêmes sur une même ligne, distribués comme un avant, l'auteur, et un après, le texte. L'auteur est censé nourrir le livre, c'est-à-dire qu'il existe avant lui, pense, souffre, vit pour lui. Il est avec son œuvre dans le même rapport d'antécédence qu'un père entretient avec son enfant. » Et là, Barthes, évidemment, reprend une métaphore classique qu'on trouve dans de nombreux prologues préliminaires, l'idée du texte comme le fils d'un géniteur qui est l'auteur. Tout au contraire, le scripteur moderne n'est en même temps que son texte. Il n'est d'aucune façon pourvu d'un être qui précéderait ou excéderait son écriture. Il n'est en rien le sujet dont son livre serait le prédicat. Il n'y a d'autre temps que celui de l'énonciation, et tout texte est écrit éternellement, ici et maintenant. Donc, on voit qu'il y a le modèle qui est utilisé, donc de ce point de vue-là, plus riche que dans la perspective strictement New Criticist américaine, c'est un modèle d'une linguistique des actes de langage, et qui est appliqué à la production du texte. C'est là la première raison pour considérer le texte comme un produit du langage et non pas comme le produit d'une intention d'auteur. La deuxième raison, c'est que pour Barthes, tout texte est considéré comme un tissu de citations. L'utilisation d'un lexique qui est déjà là et finalement le travail critique est celui qui va démêler, et non pas déchiffrer. Déchiffrer, c'est l'herméneutique, c'est une signification rapportée à une intention. Démêler, c'est de repérer comment ces fragments de langage sont tissés, noués dans chacun des textes, et comment, contraints par des codes, par des conventions, par des répertoires, il se trouve entré dans la production langagière elle-même, qu'elle soit orale ou écrite, dans un rapport d'enchevêtrement, de croisement, de texture, et produisent du coup ces effets de parodie, de dialogue, de contestation. Alors ça, c'est la première idée fondamentale dans la perspective de Barthes, celle de la mort de l'auteur, parce que c'est le langage qui parle à travers cet auteur et parce qu'il utilise ce modèle de la linguistique des actes de langage pour penser l'écriture. Et de là, vous l'avez entendu, le déplacement de l'auteur précédant son texte au scripteur qui est contemporain à son énoncé. La deuxième élément dans la perspective de Barthes, c'est qu'on va se déplacer de l'auteur mort, dans ce sens-là, vers lecteur. Alors là, je reviens juste un mot pour une citation très belle de Barthes, pour la question de démêler, opposer à déchiffrer. Voilà ce qu'il écrit. Dans l'écriture multiple, en effet, tout est à démêler, mais rien n'est à déchiffrer. La structure peut être suivie, filée, comme on dit, d'une maille, d'un bas qui part, en toutes ses reprises, à tous ses étages. Mais il n'y a pas de fond. L'espace de l'écriture est à parcourir, il n'est pas à percer. L'écriture pose sans cesse du sens, mais c'est toujours pour l'évaporer. Elle procède à une exemption systématique du sens. Par là même, la littérature, il vaudrait mieux dire désormais l'écriture, en refusant d'assigner au texte et au monde comme un texte, et au monde comme texte un secret, c'est-à-dire un sens ultime, libère une activité que l'on pourrait appeler contre-théologique, proprement révolutionnaire, car refuser d'arrêter le sens, c'est finalement refuser Dieu et ses hypostases, la raison, la science, la foi. On retrouve un contexte de la fin des années 60 dans cette tension entre le démêler une surface tissée contre déchiffrer quelque chose qui serait en profondeur et caché et lesté d'un poids d'autorité. Alors le deuxième élément, c'est comment se déplace le processus de production du sens de l'intention de l'auteur, récusé, au lecteur. Mais ce qui est important et qui a souvent été mal compris, c'est que le lecteur chez Barthes est beaucoup plus une position de lecture qu'un lecteur qui serait un individu doté d'une histoire, d'une psychologie, d'une biographie. Il revient plusieurs fois pour marquer le lecteur comme un lieu, comme un site où quelqu'un peut nouer dans son appropriation ces différents textes qui sont tissés les uns avec les autres. Voilà cette citation. Un texte est fait d'écritures multiples, issues de plusieurs cultures, et qui entrent les unes avec les autres en dialogue, en parodie, en contestation. Mais il y a un lieu où cette multiplicité se rassemble. Et ce lieu, ce n'est pas l'auteur, comme on l'a dit jusqu'à présent, c'est le lecteur. Le lecteur est l'espace même où s'inscrivent, sans qu'aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une écriture. L'unité d'un texte n'est pas dans son origine, mais dans sa destination. Mais cette destination ne peut plus être personnelle. Le lecteur est un homme sans histoire, sans biographie, sans psychologie. Il est seulement ce quelqu'un qui tient rassemblé dans un même champ toutes les traces dont est constitué l'écrit. On voit donc que c'est un basculement vers un lieu, vers un espace, vers un quelqu'un, mais qui n'ouvre pas ni la voie ni à une histoire de la lecture, ni à une sociologie de la lecture, ni à une psychologie de la lecture, qui ouvre la voie à une position qui est la position où les éléments juxtaposés ou associés dans le texte peuvent trouver un point de convergence et être rassemblés dans une unité. Et de là la conclusion du texte. Nous savons que pour rendre à l'écriture son avenir, il faut en renverser le mythe. La naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur. On pourrait évidemment mettre beaucoup d'autres textes de Barthes en rapport avec celui-ci, mais je pense que c'est un texte central parce qu'il permet de faire le pont avec le New Criticism. Il évite de penser que le New Criticism américain était une traduction de la Nouvelle Critique, ce serait tout à l'inverse finalement, une inspiration formaliste et avec ce point central de la récusation de l'intention d'auteur est récupérée par Barthes, et puis on peut évoquer comme toute la critique structuraliste ou sémiotique française, tout le travail, par exemple, sur l'intertextualité développé par Julia Kristeva se trouve dans cette idée du texte comme texture de fragments associés qui sont réemployés, pas forcément consciemment, qui appartiennent à ce répertoire commun. Et d'autre part, cette métaphore qui va devenir dévorante de la lecture, détachée d'une sociologie, d'une psychologie, d'une histoire des lecteurs et de la lecture, mais comme le lieu, le site, l'espace, dit Barthes, où les fragments peuvent être rassemblés, réunis dans un mode d'appréciation qui démêle ce qui était mêlé dans le processus de création ou dans l'énoncé du langage. Donc on a une première perspective, et c'est contre celle-ci que le New Historicism, à la fois prenant pour cible le New Criticism américain, mais aussi un refus des critiques formalistes, sémiotiques, structuralistes de la tradition de la théorie française, comme on dit aux États-Unis, va se bâtir, refusant à la fois cette idée d'une signification uniquement située dans le fonctionnement linguistique, et d'autre part, comme on l'a vu, refusant aussi l'idée que lire un texte littéraire, c'est déchiffrer l'idéologie dont il est le porte-parole. Alors, à partir de là, cette démarche d'analyse va privilégier un type de recherche, c'est la mise en rapport entre un fragment d'un texte à vocation esthétique et, d'autre part, des textes qui donnent accès à ces zones non fictionnelles du monde social qui donnent accès à des pratiques politiques, à des pratiques religieuses, à des pratiques rituelles ou à des pratiques quotidiennes. Le refus, en quelque sorte, d'une interprétation globale de l'œuvre pour porter l'attention sur, en reprenant la technique du close reading, mais dans un tout autre contexte que celle du New Criticism, cette technique de l'analyse focalisée sur le fragment, qui peut avoir son parallèle dans l'anthropologie qui se développe en parallèlement, par exemple avec la thick description, la description intensive, telle qu'un anthropologue comme Clifford Geertz va la mettre en avant, c'est-à-dire non pas une interprétation structurale de la société, mais l'analyse d'un fait social particulier. Dans le cas de Geertz, l'article le plus fameux, c'est une analyse des combats de coqs à Bali. Et à partir de l'analyse des combats de coqs, des paris qui y sont faits, des alliances qui y sont nouées, des rapports entre ceux qui possèdent les coqs et les spectateurs, on entre dans la totalité du monde social, mais non pas à partir d'un système de relations structurales, on va dire un peu dans une anthropologie structurale, mais à partir d'un élément, d'un événement, d'un fait qui permet l'entrée dans la totalité. Donc ce lien entre une influence de l'anthropologie, en particulier l'anthropologie symbolique, avec sa technique de la description épaisse, de la description intensive, et d'autre part, la récupération d'une attention précise aux figures et aux structures du texte, mais d'un texte fragmenté, d'un texte localisé, va ouvrir la voie à un mode d'analyse où le jeu, et les quatre chapitres du livre Shakespearean Negotiations, qui sont chaque fois un fragment d'une pièce shakespearienne, comédie, histoire, tragédie ou tragicomédie, même si ce n'est pas une catégorie du folio de 1623, est fondé là-dessus. Un fragment mis en rapport avec une contextualisation qui provient de textes donnant accès à d'autres espaces ou zones de l'expérience sociale. De là, par exemple, le goût pour l'anecdote. Mais l'anecdote, non pas comme élément superficiel, mais comme étant l'équivalent, en quelque sorte, du combat de coq de Bali, un événement qui fait surprise, qui donne une voie d'accès, qui déchire, en quelque sorte, l'opacité du monde social à partir d'une circonstance tout à fait particulière et précise. Alors, il est inutile de dire que cette approche a pu donner lieu à un certain nombre de critiques, les unes venant des historiens considérant que ce qui était historiciste dans le New Historicism ne correspondait pas nécessairement à une pratique d'analyse historique, et tout particulièrement dans le choix des textes qui donnent accès à la réalité du rituel, du politique, du religieux, de la pratique, puisqu'il y a un goût du New Historicism pour des textes qui sont souvent à la marge, exceptionnels, extraordinaires, et dont on ne discute pas finalement la représentativité. Ils appartiennent au réel. Ils donnent cette touch of the real, comme un chapitre dans un autre livre de Greenblatt signé avec Catherine Gallagher, Practicing New Historicism. Mais donc, du coup, un écart par rapport à l'approche des historiens qui voient là un risque d'arbitraire, une sorte de fétichisme de l'effet de réel, mais qui ne rend pas compte des normes, des dominantes, des relations qui organisent le monde, des dominations, des relations qui organisent le monde social. Et on a pu avoir donc toute une série de critiques sur cet usage du document historique dans la perspective new historicist, y compris lorsque les historiens se réfèrent à quelque chose qui pourrait être parallèle, c'est-à-dire, si vous pensez à Carlo Ginzburg, l'anomalie. L'anomalie, quelque chose qui est généralement invisible à l'historien, mais qui, dans une situation particulière, anormale, devient visible. D'une part parce qu'il y a une source qui normalement n'existe pas, et d'autre part parce que la source réfère à des pratiques qui, elles aussi, ne sont généralement pas enregistrées par les sources classiques de l'histoire. Mais évidemment, à partir de cette anomalie, ce que une perspective comme celle de Ginzburg veut faire, c'est d'entrer dans le monde social et de reconstruire une totalité culturelle, parce qu'on suppose, on le prouve, on essaye, que cette anomalie présente un caractère qui la dépasse, qu'elle est représentative de rites et de croyances qui sont beaucoup plus larges que celles de cet événement. Alors que dans la perspective New Historicist, il n'y a pas beaucoup de préoccupations pour la représentativité. Ce qui fascine, c'est la relation qui peut exister entre un texte qui est un texte du réel et d'autre part un texte qui est celui d'une fiction. Et d'ailleurs, dans un certain sens, Greenblatt en était conscient. Il écrit dans ce livre, là, Practicing New Historicism, qu'il y a un problème évident avec cette démarche. On choisit une anecdote parmi des centaines ou des milliers possibles parce qu'elle sounded like, elle sonne comme un passage de Marlowe et de Shakespeare, et donc, du coup, qu'elle produit à la fois un effet de surprise et la confirmation, car quand cet élément se retrouverait dans Marlowe ou Shakespeare. Mais la conscience chez lui qui a peut-être un cercle fermé ou vicieux entre le choix d'une anecdote qui va donner le matériau sur lequel a travaillé le dramaturge, mais parce que ce matériau est déjà lui-même construit comme une fiction. Et donc la tension ou la critique est acceptée et incorporée par la perspective du New Historicism. La deuxième critique, je ne vais pas la développer aujourd'hui parce qu'elle fera plutôt l'objet de séminaires quand j'évoquerai les approches de sociologie des textes et de la nouvelle bibliographie, c'est le fait qu'il y a, jusqu'à une date récente, peu d'attention donnée par la perspective New Historicist à l'historicité des textes. Tous les problèmes que nous avions discutés la fois dernière autour de l'historicité de la ponctuation, de l'historicité variable de l'inscription du texte sur le support sont paradoxalement, pour une approche qui se veut historienne, peu discutés. Et certains critiques ont pu dire que tout était historicisé par le New Historicism, sauf le texte lui-même, et que donc, du coup, que les New Historicists qui voulaient resituer à l'intérieur d'un temps et d'un lieu particulier des formes de création, parce qu'elles sont des appropriations de pratiques et de discours d'un temps et d'un lieu particulier, manquaient peut-être l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils utilisaient les textes dans leur état modernisé, si ce sont des textes du XVIe siècle, déjà au XVIIIe siècle, et plus encore au XXe siècle. Et que donc il y avait là un effacement de la première historicité de tout texte, c'est-à-dire celle de la matérialité de son inscription. Matérialité non seulement en termes d'objets sur lesquels les textes sont inscrits, mais matérialité en termes, comme on l'a vu la fois dernière, de l'inscription graphique sur la page, c'est-à-dire des formes graphiques, des formes de mise en page et des choix de ponctuation. Et on a vu que tout cela référait à une historicité profonde, ce qui fait qu'on pourrait suggérer, j'avais essayé de le faire, que la première négociation, elle est, ou la plus fondamentale, elle est entre l'œuvre telle qu'elle se définit du point de vue de la de l'immatérialité de sa création et d'autre part tous ces états successifs ou simultanés qui en sont comme les matérialisations ou les incarnations. Et on verra comment une démonstration spectaculaire de ce manque d'attention, dans ce cas-là, non pas pour le New Historicism, mais pour une lecture du New Criticism, mais de ce point de vue, il y avait comme une parenté, le peu d'intérêt dans une ou l'autre approche pour les formes même matérielles de l'inscription, a pu entraîner un total contresens sur une citation de Ben Jonson qu'on trouve dans l'article de Wimsatt et Bursley. La démarche, évidemment, du New Historicism a produit, au-delà de ces deux types de critiques, une critique au nom de la pratique historique et une critique au nom de la pratique, on va dire, textuelle ou bibliographique, a produit de grands résultats. Un des livres les plus spectaculaires est sans doute le livre de Greenblatt, Hamlet in Purgatory, en 2001, où ce que veut montrer Greenblatt, c'est comment Shakespeare s'approprie cette croyance dans le purgatoire, et il s'agit donc de reconstruire le matériau théologique ou pastoral dont Shakespeare pouvait disposer, sur lequel il travaillait, et comment il le réinterprétait. Et à partir de ce là, on voit comment la démarche une sorte de patience ou de discipline herméneutique, et par exemple par la confrontation dans Hamlet entre les scènes où le spectre, Hamlet le père, le fantôme, the ghost, apparaît. Il y en a trois, il y en a deux dans lesquelles le fantôme parle, et d'autre part les récits ou les pratiques qui ont stabilisé la croyance au purgatoire, ou qui l'ont récusé dans le cas de la réforme protestante, et les références dont Hamlet, la pièce, est saturée en termes d'indulgence, de fondation, de messe pour le repos des morts. Et donc, du coup, à partir de là, on voit que dans ce cas-là, la critique historique pourrait perdre sa vigueur parce que le travail sur Hamlet in Purgatory est méticuleux sur les matériaux de purgatoire dont Shakespeare pouvait s'emparer, et ce qui crée cette sorte d'indécision d'Hamlet par rapport au christianisme et dans le contexte de l'Église de la Réforme anglicane, de l'Église d'Angleterre, ces références qui peuvent surprendre ou paraître hors du dogme nouveau, qui sont celles toutes liées avec la croyance au purgatoire, et particulièrement les retours des âmes mortes qui ne sont pas en repos dans le purgatoire parce que les vivants ne leur ont pas donné, sous la forme des fondations, des messes pour le repos de l'âme ou de l'achat d'indulgence, ce qui permettrait d'abréger la durée de leur passage ou séjour dans le purgatoire. Et au-delà, évidemment, le choix de cette question dans ce grand livre, Hamlet in Purgatory, est aussi la perspective qui pouvait renvoyer à la première phrase du livre The Shakespearean Negotiations, qui est dans la première phrase du premier chapitre, I began with a desire to speak with the dead. Je commence avec le désir de parler avec les morts. Et donc, le critique littéraire qui se trouve dans cette situation où, finalement, le travail est aussi d'écouter les morts avec les yeux, si je peux dire, de faire revivre, de faire reparaître à travers l'infranchissable distance, la voix des dépassés. Et d'ailleurs, il y a une parodie qui a été faite de cette phrase dans un essai, dans un livre magnifique de Geoffrey Maston qui s'appelle Textual Intercourse et qui était lié à l'analyse des collaborations dans le monde des dramaturges élisabétains, en particulier entre Beaumont et Fletcher, et qui déploie une analyse, sinon nécessairement en termes d'homosexualité, mais au moins en termes de sociabilité masculine, et qui va pouvoir s'inscrire aussi dans une perspective qui serait celle de la critique qui porte l'accent sur les dimensions du genre et les dimensions de la sexualité dans l'interprétation des textes. Et Geoffrey Mastin avait commencé son livre par « I begin with the desire to sleep with the dead ». Donc, il y avait là une parodie, une ironie par rapport à Greenblatt. Je commence avec le désir de coucher avec les morts. Alors, on peut en venir maintenant à la biographie « Will in the World »,« How Shakespeare became Shakespeare », parce qu'elle peut paraître un peu incongrue lorsqu'on se réfère à tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Parce que s'il y a un genre qui paraît bien opposé avec ses principes méthodologiques de la production collective, de la contextualisation en termes de discours et de pratiques appropriées par l'œuvre, le primat donné au fragment, c'est bien la biographie littéraire, dans la mesure où elle travaille sur l'œuvre et le corpus. Elle travaille sur l'individu et, évidemment, elle est complètement menacée par le risque de ce que Pierre Bourdieu appelait l'illusion biographique, c'est-à-dire non seulement une illusion, on va l'appeler esthétique, c'est-à-dire l'œuvre est écrite avec la vie, mais une illusion biographique, l'œuvre se déploie selon une nécessité, une singularité qui est celle même de l'existence. Alors que pour Bourdieu, évidemment, par rapport à la nécessité, l'importance des aléas, des rencontres, des inattendus, est un élément qui marque des trajectoires d'existence, même si elles sont prises dans les déterminations des logiques sociales. Et d'autre part, la singularité doit être opposée à ce qui est commun sans que les individus le sachent, à ceux qui appartiennent aux mêmes générations, aux mêmes milieux ou aux mêmes trajectoires. Mais en même temps, évidemment, ce genre de la biographie littéraire, la volonté dans le monde, ou William Shakespeare dans le monde, est presque un genre obligé, imposé par la tradition. Et les biographies de Shakespeare se comptent par dizaines. Et c'est là le paradoxe. Alors ce paradoxe, je crois qu'il faut le situer justement dans la discordance chronologique que j'évoquais dans les séminaires précédents. Et en particulier ce moment où on va basculer de l'anecdote à la biographie. Ce qui serait l'opposition entre les deux premiers grands récits sur la vie de Shakespeare qu'on rencontre dans deux éditions du XVIIIe siècle. La première édition, la première du XVIIIe siècle, c'est l'édition de Nicholas Rowe, R-O-W-E, qui édite en 1709 « The Works of Master William Shakespeare », 6 volumes in octavo, et c'est la première édition depuis la série des folios, 1623, 1632, 1664, 1685. Et dans cette édition, on trouve, en introduction, un récit de la vie et des écrits de William Shakespeare, « Some account of the life and writing of Master William Shakespeare ». Et auparavant, il n'existait que des anecdotes dans des sortes d'anthologies, d'anecdotes sur les auteurs. Un des plus célèbres était un recueil de John Aubrey qui avait pour titre « Brief Lives of Contemporaries », donc des vies brides, rapides, abrégées de certains contemporains. C'était une compilation publiée entre 1669-1696, ou bien encore de Thomas Fuller, « Worthies of England », ceux qui sont dignes de réputation en Angleterre de 1662. Dans ces brèves vies, ces recueils d'anecdotes, on voyait une série d'anecdotes qui étaient liées à des actions, à des actes de la vie, et pas que reliées avec l'œuvre, qui pour l'essentiel venaient des transmissions de traditions orales, et se constituait un premier répertoire d'anecdotes sur Shakespeare. Par exemple, le jeune Shakespeare récitant des vers pendant qu'il tuait des veaux dans la boucherie de son père, ou bien le jeune Shakespeare moins jeune condamné pour braconnage de cerf et composant une ballade pour se venger du magistrat Sir Lucy, qu'il avait fait fouetter et emprisonner, ce qui avait entraîné son départ pour Londres, ou encore Shakespeare ayant une relation d'adultère avec une aubergiste dans une auberge située entre Stratford et Londres, père d'un fils illégitime qui va s'identifier avec Davenant, ou bien encore Shakespeare rédigeant une épitaphe calomnieuse pour un ami caractérisé par son avarice. Alors, ce qui est intéressant pour Rowe, c'est qu'il reprend toutes ces anecdotes dans ses Some Accounts of the Life and Writing of Master William Shakespeare, sauf une, c'est-à-dire la question de l'enfant illégitime et de la possible paternité de Shakespeare pour Davenant, qui devient l'un des, à la Restauration, l'un des deux directeurs des troupes de théâtre autorisées par 1660. Mais avec des différences, d'abord parce qu'il essaye d'accréditer ce matériel d'anecdotes en indiquant qu'elles ont été collectées par Thomas Betterton, le grand acteur shakespearien de la Restauration, et qui aurait visité Stratford-upon-Avon et recueilli auprès des habitants eux-mêmes ces traditions. Et la deuxième transformation qu'opère Nicholas Rowe sur ce matériel d'anecdotes épars, c'est de les lier avec l'œuvre. Pour la première fois, c'est-à-dire de considérer que toutes ces anecdotes qui montrent un Shakespeare dans l'illégalité, la transgression, la spontanéité, une sorte d'extravagance de l'individu, va trouver son écho ou est la cause de, dans l'œuvre, l'irrégularité de l'œuvre, et qui explique pourquoi, à la fois pendant la Restauration, elle a pu être reconnue comme étant l'expression de la nature même, mais en même temps devait être polissée par les conventions nouvelles de décence, de décorum, de bienséance qui dominent le théâtre de la Restauration. Et c'est ce qui explique pourquoi, lorsque les œuvres de Shakespeare, à partir de 1660, sont portées de nouveau sur la scène, après la fermeture des théâtres en 1642 et 1660, elles le sont dans des adaptations qui leur imposent ces nouvelles catégories de bienséance et de décence et qui réécrivent très largement les textes. C'est le cas dans les révisions ou adaptations de Davenant, de Theobald, de Ted, de Dryden, et, qui d'ailleurs, entre parenthèses, crée cette relation qu'un critique a appelée schizophrénique avec Shakespeare dans l'Angleterre de la des années 1660 jusqu'à 1730 ou même plus avant. D'un côté, lorsqu'on pense à l'édition des textes shakespeariens, une nouvelle exigence d'érudition s'instaure, retrouver le texte tel que Shakespeare l'a voulu, et donc de retrouver les true original copies, et pour ça, manier toutes les ressources bibliographiques, comparer les différents états du folio, des quatre folios, comparer les folios avec les textes in quarto, donc une érudition philologique qui va amener progressivement une trajectoire de la critique et de l'édition, depuis Rowe jusqu'à Pope, jusqu'à Theobald et jusqu'à la fin du siècle. Et d'autre part, lorsque pour les mêmes textes, qui sont scrupuleusement édités, ou le plus possible, dans un terme d'une nouvelle philologie, inspirée par l'édition des textes des anciens, ou l'édition des textes bibliques. Lorsqu'il s'agit de les mettre sur la scène, une sorte de totale liberté, d'irrespect, de grande part d'innovation, de façon à ajuster aux nouvelles conventions du théâtre et aux nouvelles exigences de la décence et de la bienséance, des textes qui, par ailleurs, sont fascinants par leur aspect naturel, par leur irrégularité, mais qui doivent être soumis à un principe et un processus de régularisation. Et les points, les passages considérés comme les plus irréguliers, contraires à la bienséance, à la décence, par les allusions pornographiques, par le langage bas et vulgaire, pouvant être considérés, pour éviter que la distance soit trop grande entre la construction d'une figure du poète national et d'autre part les textes tels qu'on les trouvait, attribués à des interpolations ou des improvisations des acteurs, qui aurait en quelque sorte corrompu les textes par cette intrusion de ce qui ne paraît pas possiblement assignable à Shakespeare. Et d'ailleurs, dans l'édition de Pope de 1725, ces passages, qui sont considérés comme obscènes ou vulgaires, sont dégradés, ils sont mis en note, comme si c'était des passages interpolés par les acteurs qui ne peuvent pas avoir été écrits par Shakespeare. Donc la vie de Rowe, qui rassemble du matériel d'anecdotes, qui l'accrédite en le présentant comme des traditions orales recueillies sur place, à Stratford, et qui met en rapport la nature de l'œuvre et les éléments les plus transgressifs de la vie de Shakespeare, va fonder les vies de Shakespeare à travers tout le XVIIIe siècle jusqu'à la première véritable biographie moderne entrant dans un autre registre qui est celle de Edmond Malone, dont j'avais parlé la fois dernière. Donc Rowe, c'est 1709, et Malone, c'est 1780, 1790, il publie à son tour The Play and Poems of William Shakespeare, 10 volumes in octavo, et dans ce premier état, il se contente d'annoter la vie de Shakespeare publié par Rowe, mais en les présentant comme écrites, ces annotations, avec le propos de démolir à peu près chaque affirmation que la vie publiée par Nicholas Rowe contenait. Donc c'est une récusation de ce tissu d'anecdotes et de leur relation avec l'œuvre qui va conduire Malone à des recherches pour établir une vie de Shakespeare qui soit fondée sur des documents originaux et authentiques. Et en 1796, il fait circuler un prospectus annonçant « An entirely new life of Shakespeare, compiled from original and authentic documents », une vie de Shakespeare entièrement nouvelle, établie, compilée à partir de documents originaux et authentiques. Et cette vie, effectivement, paraîtra après la mort de Malone en 1812. Elle sera rédigée par James Boswell et elle prendra place dans le deuxième volume de l'édition de 1821 des Plays and Poems de William Shakespeare, assuré par Boswell. Dans le tome 2, la vie de Shakespeare a 525 pages, donc on change complètement de registre et d'importance, plus encore 175 pages dans l'appendice. Et cette édition de 1821, Malone, Boswell, a 21 volumes qui rassemblent les pièces, les poèmes et toute une série de documents. La démarche ici est une démarche critique qui récuse les anecdotes. Des 11 faits mentionnés par Nicholas Rowe, 8 sont caractérisés comme faux par Malone et 1 comme douteux. C'est le rejet de ce qu'il appelle les « traditionary tales », ces histoires racontées traditionnelles, transmises supposément par la mémoire et opposées à cela, un travail sur les archives, les documents authentiques aussi bien, et aussi ceux qu'on peut trouver à Stratford-upon-Avon ou ceux qu'on peut trouver à Worcester. Travail sur les registres paroissiaux, les archives de notaires, le testament. Travail sur les registres de la compagnie, la corporation des libraires et imprimeurs de Londres, la Stationers' Company, et en même temps sur les comptes d'un entrepreneur de théâtre, Henslowe, qui a tenu jour après jour, comme je l'avais rappelé, les paiements qu'il faisait à des dramaturges pour les pièces qu'il leur achetait. Il a aussi consulté le livre du censeur des théâtres, le Master of Revels, et il a utilisé toutes les informations qu'on pouvait trouver sur des pages de titres, des quartos et des folios. Et du coup, la vie de Shakespeare par Malone, publié par Boswell, devient la base de toutes les vies de Shakespeare au XIXe et au XXe siècle. Et pratiquement aucun document nouveau a été ajouté depuis la fin du XVIIIe ou du début du XIXe sur quelques données biographiques que ce soit de Shakespeare. On peut prendre l'exemple de cette récusation méticuleuse. Bon, Shakespeare, dans l'anecdote, était un braconnier qui se fait surprendre, qui est condamné par Sir Lucy, le magistrat du lieu, à être fouetté et emprisonné. Et du coup, que Malone démontre Lucy n'était pas propriétaire d'un parc, donc lui ne pouvait pas posséder les serfs qui auraient théoriquement braconné Shakespeare. Le fouet n'était pas une punition pour le braconnage. Et d'autre part, la ballade que Shakespeare aurait composée pour cet événement et pour se venger de Sir Lucy serait en fait inventée à partir d'une des scènes des Joyeuses Commères de Windsor. L'intention de cette biographie sur laquelle j'insiste avant de retourner à Greenblatt, c'est le fait que ce qui est un mouvement, qui est la trajectoire du texte, c'est de montrer comment graduellement Shakespeare acquiert renommée, statut et fortune. Donc, il met en rapport ce qui est l'acquisition de ce statut dans le monde social, un patrimoine immobilier, l'acquisition d'un blason, et donc du coup la protection des grands, Southampton, à qui sont dédiés les poèmes, le viol de Lucrèce et Vénus et Adonis, et puis la protection d'Élisabeth Ière, de Jacques Ier, donc un processus de respectabilité qui va contre ces anecdotes de la transgression, de l'irrégularité, de la sauvagerie, de l'extravagance, et qui veulent montrer comment au déploiement de l'œuvre correspond cet accès dans le statut, la fortune, la renommée et la protection. Et du coup, la figure de Shakespeare, dans cette perspective, est autonomisée, individualisée. La biographie est celle d'un destin individuel, la conquête personnelle d'un statut, d'une richesse, d'un prestige. Et c'est aussi une raison de récuser toutes ces anecdotes dans lesquelles Shakespeare est toujours en relation avec quelqu'un d'autre, des relations de sociabilité, d'échange, de réciprocité. La vengeance pour la sociabilité, la punition pour les échanges ou tous les éléments qui le séparaient de l'œuvre pour le replacer dans son monde social. Dans le cas de la biographie de Malone, Boswell, c'est un destin individuel, une trajectoire où l'individu se construit lui-même et acquiert cette respectabilité. Et de là, le lien avec l'œuvre, puisque ce serait deux déploiements parallèles, et comme je l'avais dit, c'est dès 1778 que Malone avait établi dans un texte qui s'appelle An Attempt to Ascertain the Order in Which the Play Were Written, une tentative pour établir l'ordre dans lequel les pièces de Shakespeare ont été écrites dès 1778. Il propose une première chronologie des œuvres de Shakespeare, dont il n'y avait aucune autre base, puisque toutes les éditions jusqu'alors étaient soit des éditions de pièces séparées, soit des folios dans lesquels, dans les quatre folios, l'ordre est toujours le même. Comédie, histoire, tragédie, indépendamment de la date de composition. Et du coup, dans cette mise en ordre chronologique, on voit qu'il y a là une radicale rupture par rapport à toutes les éditions préalables du corpus shakespearien, même au XVIIIe siècle, où était gardé, parfois modulé, cet ordre thématique, puisqu'aux comédies, aux histoires et aux tragédies avaient pu être ajoutées, par exemple chez Pope, une distinction entre les tragédies qui étaient fondées sur des histoires, donc des faits réels, et les tragédies qui étaient fondées sur des fables. Et dans d'autres, le concept de romance a pu être aussi introduit. Mais toujours en ordre thématique. Malone est le premier à insister sur l'ordre chronologique de la composition, avec évidemment cette difficulté, puisqu'il y a peu de documents qui permettent une chronologie sûre. Mais du coup, il y a une mise en relation entre l'œuvre et la vie qui sont tracées en parallèle. Et ce qui peut poser cette question que j'évoquais avec Margherita de Grazia, c'est-à-dire la création d'une sorte de circularité où les œuvres sont placées dans la vie parce que elles sont, la vie, dans un sens, est déduite des œuvres. Margherita de Grazia, dans un très beau livre qui est consacré justement à l'édition de Shakespeare de Malone, Shakespeare Verbatim, écrit « L'arrangement chronologique lui-même suggérait que c'était seulement en examinant exhaustivement les pièces, comme si elles étaient des documents d'archives, que l'on pouvait connaître la vie de Shakespeare en son entier, du début à la fin. Les pièces sont tenues pour étant comme des dépôts d'une relation, des expressions d'une relation de Shakespeare aux événements contemporains. De là, un intense déchiffrement des allusions historiques qui sont mentionnées, évoquées dans les pièces. Et d'autre part, cette trajectoire de l'œuvre révèle finalement le déploiement, non seulement d'un statut, d'une reconnaissance, d'une réputation, mais ce qui fonde ce déploiement, c'est-à-dire l'éclosion et ensuite l'affirmation du génie de l'auteur. Et on a cette structure temporelle de la trajectoire de l'individu et du déploiement de son art qui peut être aussi interprété comme cet cercle fermé qui explique l'un par l'autre. Et par exemple, dans cette construction, la mort du fils de Shakespeare, qui s'appelait Hamet en 1596, serait la raison où trouverait son écho dans une pièce de la même année, Le roi Jean, où il y a une déploration de Constance sur la mort d'Arthur. Ou encore les difficultés de la vie avec son épouse, Anne Hathaway, seraient les raisons de multiples allusions dans la critique ou l'ironie sur la disproportion des âges, puisque Anne Hathaway avait 7 ans ou 8 ans de plus que Shakespeare, dans Le songe d'une nuit d'été ou dans la nuit des rois. Donc, il n'y a pas de distinction qui est établie entre les documents sur Shakespeare et les documents de Shakespeare. Ce qui est « about him and by him », comme écrit Margherita de Grazia, est constitué dans une sorte de continuum chronologique. Et ce qui fait qu'on interprète aussi certains textes par ce biais biographique, par exemple les sonnets publié en 1608, puis republié en 1640. Et dans l'édition de Malone, des sonnets, ils sont ramenés à un statut de discours autobiographique. J'ai insisté beaucoup sur cette construction du rapport entre l'homme et l'œuvre, Shakespeare et le corpus shakespearien, dans le texte de Malone. C'est parce que, me semble-t-il, c'est dans cet héritage, beaucoup plus que dans la pratique du New Historicism, que peut s'insérer la biographie écrite par Greenblatt. Qui est un texte magnifique, c'est le best-seller aux États-Unis n'était pas usurpé dans la mesure qu'il est il y a une flamboyance ou une force de l'écriture. Mais évidemment, ce qui est fait le grand problème ou l'intérêt pour nous dans ce séminaire, c'est à quelles conditions peut-on écrire la biographie d'un individu sur lequel n'existe aucun document biographique. Et est-ce que cette écriture peut être menée en gardant les principes analytiques du New Historicism, fondés, inspirés, illustrés par Greenblatt, ou est-ce que, presque nécessairement, est-ce que l'on ne revient pas à un paradigme peut-être contre lequel le New Historicism s'était construit, et qui est ce paradigme que je viens d'essayer de marquer avec la biographie shakespearienne telle que l'a conçue Malone est en relation avec son édition, ou ce qui serait l'idéal d'une édition de Shakespeare suivant l'ordre chronologique des textes. On peut le voir d'entrée avec la théorisation de la nécessité telle que l'a fait Greenblatt, c'est-à-dire cette projection ou cette déduction biographique. Il écrit « La volonté d'explorer la vie de Shakespeare naît de la puissante conviction selon laquelle ses pièces et ses poèmes proviennent non seulement d'autres pièces et poèmes, mais des choses qu'il a connues directement dans son corps et dans son âme. » Ou, dans une autre citation, « Les fantasmes qui excitaient son imagination semblent avoir eu souvent leurs origines dans les événements de sa vie, ou plutôt dans les attentes, les désirs et les frustrations engendrées par ces événements. » On a donc une démarche systématique qui se met en place où la relation, comme chez Malone, est établie entre des événements de la biographie, les relations malheureuses avec son épouse, la relation difficile avec son père ruiné, la mort du fils le 11 août 1596, au moment même d'ailleurs de la mort de son propre père, tout cela permettant de donner des clés pour interpréter les sonnets ou Hamlet ou d'autres textes. On voit donc que ce retour de la déduction biographique ou de la projection biographique est presque inévitable, même dans une perspective qui s'est fondée sur l'idée que les œuvres s'écrivent avec des appropriations, des fragments de discours et de pratiques, et non pas, comme vous le trouveriez dans Shakespeare Negotiation, il n'est pas de rapport, d'allusion, de référence donnée à l'expérience de l'existence de Shakespeare. Donc la biographie littéraire oblige finalement à revenir sur des principes analytiques qui pourtant ont une force de connaissance, mais qui restent désemparés devant l'idée qu'une biographie est forcément l'individualisation d'un être singulier et que d'autre part, si elle est littéraire, elle ne peut que réintroduire l'idée que c'est avec ce que l'on a connu dans le corps et dans l'âme que s'écrit la littérature. Ce qui est évidemment une double écart et par rapport à la perspective de la nouvelle critique que l'on a lue de Barthes contre l'intention doctoriale, et d'autre part, ce qui est un écart aussi par rapport à le New Historicism. Et l'autre trait qui me paraît très intéressant dans cette perspective, c'est la nécessité de la reconstruction hypothétique, puisque en l'absence de tout document externe, et dans la trappe de cette circularité entre les expériences de la vie que l'on voit dans l'œuvre et les traits de l'œuvre qui s'expliquent par la vie, la seule possibilité est de procéder avec des critères qui sont ceux du plausible, du possible, du probable, et on voit très souvent dans l'écriture de cette biographie, vous l'avez même entendu, semble avoir, les fantasmes qui excitaient son imagination, semble avoir eu souvent leur origine dans les événements de sa vie. Et puis dans le non seulement d'autres pièces et poèmes, mais aussi des choses qu'il a connues. Il y a donc tout un trait de prudence hypothétique et parfois de construction d'un jeu d'hypothèses. Je ne rentre pas dans le détail, mais pour montrer ce qui est une thèse de Greenblatt, mais pas de lui seul, que Shakespeare était sans doute proche du catholicisme ou formé par le catholicisme que l'on attribue à son père. Et aussi pour comprendre ce qui a pu se passer dans ce que l'on appelle dans la biographie de Shakespeare « The Lost Years », dans lesquels il n'y a aucun élément, encore moins que dans les autres, pour les années 1580 et 1582, que Greenblatt se livre à un jeu d'une étourdissante subtilité, mais qui repose entièrement sur les « if, likely, assuming that, perhaps, could have », donc toutes des formules d'écriture qui sont à la fois toujours des prudences, mais qui, in fine, terminent par une affirmation. Et alors, pour arriver à l'hypothèse d'un Shakespeare proche du catholicisme ou encore catholique, il faut à Greenblatt faire 5 hypothèses successives, que le père de Shakespeare était catholique, ce qui est un peu curieux puisqu'il était en même temps l'officier municipal qui avait agi pour imposer la réforme à Stratford. Il fallait supposer qu'un des maîtres de Shakespeare qui avait quitté Stratford en 1575 avait connu le jeune Shakespeare et leur ce maître-là, lui, était catholique. Une troisième hypothèse qui est qu'il faut identifier dans l'entourage d'un noble catholique un personnage qui est payé comme comédien, mais qui a le nom de William Schecht, comme étant une déformation de William Shakespeare. Et ensuite, une quatrième hypothèse qui est la rencontre entre ce Schecht Shakespeare et le jésuite Campion, torturé, pendu, exécuté en 1580 comme catholique. Et puis, finalement, de supposer qu'une rhétorique à l'intérieur des œuvres, par exemple la rhétorique amoureuse de Roméo et Juliette, est en fait une appropriation fictionnelle d'une rhétorique qui serait celle de la sainteté. Donc c'est ce jeu d'échafaudage de hypothèses qui ensuite arrive à une conclusion qu'un Shakespeare catholique a pu rencontrer le jésuite Campion et a été inspiré dans ses œuvres par cette spiritualité. On voit et toutes les autres cas où le rapport œuvre vie est proposé relève de la même stratégie de l'écriture de la possibilité. Le père de Shakespeare débauché, ivrogne, qui expliquerait le personnage évidemment de Falstaff dans Henri IV. Mais la seule anecdote sur le père de Shakespeare comme falstaffien et du XVIIe siècle est douteuse. Donc, il y a là un jeu fascinant à suivre, mais qui, évidemment, laisse des doutes. Mais il laisse surtout, pour finir, une réflexion sur le prix à payer pour une biographie littéraire. C'est-à-dire qu'on ne peut que rabattre l'invention esthétique sur l'expérience individuelle de l'auteur. Et ce qui va tout à fait à l'encontre d'une des affirmations de départ du New Historicism, prendre au sérieux la production collective du plaisir et de l'intérêt littéraire, c'est-à-dire collective dans la production des œuvres, appropriant des discours et des pratiques du monde social, et collective dans l'expérience de l'acte lui-même entre auteur, acteur, et spectateur. Et d'autre part, une autre difficulté est évidemment la réduction non plus de l'invention esthétique à la singularité individuelle, mais la réduction de l'œuvre en son entier à une caractérisation globalisante. Pour donner unité à cette trajectoire, Greenblatt revient à cette idée qu'il y aurait un principe unifiant de toutes les œuvres shakespeariennes qui serait ce qu'il appelle le strategic opacity, c'est-à-dire finalement la capture de cette énergie des discours et des pratiques du monde social produisant l'irrésolution, l'absence de clé, l'incomplétude. Et finalement, c'est une manière assez subtile de donner à la fois un principe général pour comprendre l'œuvre, mais un principe général qui se caractérise justement par la contradiction, l'incomplétude, l'irrésolution. Mais néanmoins, après l'analyse des fragments strictement localisés, on en vient là à une sorte de discours plus subtil que beaucoup des vérités sur l'œuvre shakespearienne, plus subtil évidemment, mais qui néanmoins va reprendre le corpus dans son entier, comme si il fallait nécessairement trouver un principe unificateur à cette diversité textuelle. Et évidemment, le point le plus fondamental qui expliquerait cela, c'est le fait de projeter sur des modes de production des textes propres à la Renaissance, l'écriture à plusieurs mains, l'écriture de réemploi, les catégories qui sont celles qui sont cristallisées au XVIIIe siècle, celles dans lesquelles Malone écrit et pour lesquelles il écrit. Et donc, du coup, la critique qui avait été faite sur un des difficultés du New Historicism étant le fait de tout historiciser sauf le texte, pourrait peut-être être amplifié en disant qu'ici, ce qui est historicisé l'est peut-être au prix d'un anachronisme et d'une projection rétrospective sur des conditions de production, de réception, d'assignation, d'identification des textes qui sont antérieures aux catégories que presque nécessairement un biographe utilise dans une biographie littéraire et qui renvoie à l'expérience singulière, qui renvoie à l'individualité de l'œuvre, qui renvoie à la construction du génie et qui rompt avec ce qui, peut-être, ou même sûrement, était les conditions propres au temps de la Renaissance pour produire des textes. Ce qui ferait que l'anachronisme ne serait pas une faute de l'auteur, ne serait pas un manque d'attention, mais serait en quelque sorte inhérent au genre même de la biographie littéraire. Et si l'on pense de cette manière-là, effectivement, la biographie de Shakespeare serait impossible. Et dès qu'on affronte la nécessité, le plaisir ou le profit de l'écrire, à partir de ce moment-là, presque nécessairement, l'anachronisme s'introduit, puisque la biographie littéraire, par définition, se situe dans une configuration de production et de réception des discours qui est très éloignée de la configuration régissant la production d'une œuvre comme celle de Shakespeare. Voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui, à la fois dans une analyse d'un courant critique qui nous peut inspirer profondément, parce que ce travail sur la négociation et la transaction est très inspirateur, très nouveau, très original, et en même temps d'essayer de réfléchir sur les effets plus sérieux que l'on attribue ordinairement, que ceux que l'on attribue ordinairement à cette cristallisation d'un paradigme de l'écriture qui émerge dans un moment historique particulier et qui rend évidemment difficile son maniement rétrospectif, et tout particulièrement dans un genre qui est lui-même un genre produit et producteur à la fois de cette configuration qui est celle du XVIIIe siècle. Si vous avez des remarques, il faudra terminer un peu plus tôt que 18 heures parce qu'il y a une leçon inaugurale, alors il veut toujours qu'on termine à moins 10 avant, mais on a quand même un certain temps pour discuter, comme on l'avait fait la fois dernière, hein, jusqu'à bien